7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le lundi 6 décembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'exécutif en ordre de bataille contre le Covid-19, conseil de défense sanitaire ce matin. A priori, pas de nouvelles restrictions, mais il sera question des enfants. Nous voyons cela dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Tension et incident au premier meeting d'Éric Zemmour hier, de la démonstration de force des participants nombreux aux journalistes et militants des SOS Racisme pris à partie. À Madagascar, des anciens militaires français auraient-ils voulu attenter à la vie du président malgache ? Leur procès s'ouvre aujourd'hui, on vous raconte. Et puis l'idée cadeau du service culture aujourd'hui, classique de la littérature italienne Dante, dans une nouvelle traduction.
Les invités, les rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50, avec vous Léa Salamé.
C'est le film populaire, familial, la grande histoire d'amour impossible qu'on attendait en cette fin d'année. La nouvelle version de West Side Story, signée par l'un des plus grands réalisateurs du monde, Steven Spielberg, sort ce mercredi sur vos écrans. Steven Spielberg sera notre invité à 7h50 et on est très contents.
Oui, très très contents. 8h20 donc, le grand entretien de la matinale avec Valérie Pécresse, candidate LR à l'élection présidentielle et présidente de la région Île-de-France. Le standard est ouvert, vous attend. Appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter.
À quelle sauce Covid les fêtes de fin d'année seront-elles mangées alors que l'épidémie flambe ? On n'a jamais vu autant de malades dans les hôpitaux depuis fin août. La question de la vaccination des enfants va être abordée dans l'huis clos du Conseil de défense sanitaire ce matin, recommandé par la Haute Autorité de Santé pour les enfants à risque. Ça fait débat, on en parle à 8h. Ce qui fait débat aussi, c'est le nouveau protocole dans les écoles. Pas de fermeture de classe, mais cas contact testé. Et l'enfant peut revenir si les parents présentent un test négatif. Les enseignants eux essaient de s'en sortir comme ils peuvent, Sonia Princé.
Tous les jours, des élèves sont absents, mais ce ne sont jamais les mêmes.
C'est un casse-tête, en fait.
Difficile de gérer la trentaine de cas positifs sur 170 élèves et les cas contacts en cascade dans l'école de Céline Sierra, enseignante en CE1, CE2 à Nantes et représentante du syndicat SNUIPP en Loire-Atlantique.
À chaque fois qu'on a un élève qui est découvert positif, les enfants arrivent à l'école, on a l'information, donc il faut rappeler les familles une par une. Donc l'enseignante, l'enseignant de la classe s'arrête de travailler, rappelle une par une les familles en disant voilà, il y a un cas positif dans la classe, il faut venir chercher votre enfant, lui faire faire un test.
Heureusement, les parents jouent le jeu de faire tester leur enfant systématiquement. Mais avec la nouvelle règle, la classe ne peut pas fonctionner normalement.
Notre classe, c'est un peu un gruyère en ce moment, puisque on a des élèves qui sont donc cas contact de frères et sœurs, donc qui ont été isolés 17 jours, d'autres qui sont cas contact hors fratrie, donc qui sont absents pendant 7 jours. Il faut gérer les messages aux familles, il faut gérer les enfants qui sont à distance pour ne pas les laisser sans activité scolaire. C'est l'horreur, parce qu'en fait, on passe notre temps à faire autre chose qu'enseigner.
Et ce qui inquiète Céline Sierra, ce sont les cas positifs qui se multiplient à la maternelle voisine et qui vont forcément se propager à son école par l'intermédiaire des frères et sœurs.
En Belgique, la solution a été trouvée pour les écoles. 3 semaines de vacances à Noël pour le primaire et la maternelle. Partout en Europe, l'étau de cette vague se resserre. L'Italie espère sauver Noël en renforçant son pass sanitaire. Un test négatif ne suffit plus, il faut être vacciné. À Rome, Olivier Tosseri.
Sauver Noël et l'économie, c'est la priorité que s'est fixée Mario Draghi face à la flambée de nouveaux cas de Covid-19 en Europe. Il a donc décidé de durcir les règles d'usage du pass sanitaire, comme il l'a expliqué solennellement aux Italiens.
La situation en Italie est en légère mais constante détérioration. Nous voulons empêcher qu'elle ne s'aggrave et être très prudents pour réussir à préserver la vie normale que nous avons reconquis au cours de cette année.
Une vie normale ou presque qui ne pourra pas se faire sans un super pass sanitaire. Il entrera en vigueur ce lundi jusqu'au 15 janvier prochain. Il sera indispensable pour accéder aux restaurants, bars, cinémas, théâtres, discothèques ou salles de sport. Il va être également étendu pour se déplacer en transport en commun et sa validité sera réduite d'un an à 9 mois. Mais le but est surtout de convaincre les réfractaires de se faire vacciner, comme le constate Francesca.
C'est un fait qu'avec cette mesure, ils rendent le vaccin obligatoire. Ça devrait relever de la liberté de choix de le faire ou pas, mais avec ce pass sanitaire renforcé, ils forcent les gens qui ne veulent pas le faire à se faire vacciner.
Si près de 88% de la population est totalement immunisée, environ 6 millions d'Italiens n'ont reçu, pour l'instant, aucune dose.
À Rome, Olivier Tosseri, ce que disent les indicateurs avant le Conseil de défense sanitaire de ce matin, c'est aussi à lire sur franceinter.fr et puis noter que les scientifiques surveillent par ailleurs un nouveau variant détecté au Congo et en France.
Il est 7h05, des incidents, des violences au premier meeting d'Éric Zemmour
hier. Au parc des expositions de Villepinte, l'organisation a compté 15 000 personnes et présenté le nom du parti Reconquête. En plein discours du candidat d'extrême droite, une douzaine de militants d'SOS Racisme se sont levés, habillés de t-shirts avec des qui formait la phrase « Non au racisme », aussitôt violemment prise à partie par des participants, les militants. Certains en sont ont pu être exfiltrés par le service d'ordre. Écoutez Florian, choqué par la violence des coups qu'il a reçus, il le dit à Adrien Serrer.
On s'est fait mettre à terre, on s'est fait frapper. Il y a d'autres personnes qui ont voulu nous mettre dans des coins pour nous frapper encore plus, que ce soit avec des chaises ou avec leurs coups. Donc c'était essentiellement des attaques à la tête. On voulait dénoncer la violence qui sort des discours d'Éric Zemmour et qui justement incite à la violence, comme on a pu avoir l'illustration aujourd'hui. Mais le but, c'était de le faire de manière pacifique. On n'allait pas opposer de résistance, on n'allait pas en fait frapper d'autres militants. On a l'habitude de faire des actions pacifiques. Mais c'est une des rares fois où on a eu autant de violence.
Florian, militant d'SOS Racisme, Antoine Diers, porte-parole du parti d'Éric Zemmour, lui répond.
Moi, ce qu'on m'indique, c'est que malgré notre filtrage très précautionneux, des opposants étaient entrés dans la salle et ont commencé à exprimer leur opposition. Et donc moi, les infos que j'ai, c'est que ils ont été invités à sortir, peut-être avec efficacité. S'il y a une personne qui a reçu des coups, je suis désolé pour elle, mais je l'invite à pas revenir dans une salle de meeting pour exprimer son opposition. Ça se fait pas quand on est en désaccord, on vient pas là. La tension, c'est pas nous qui la créons.
Antoine Diers avec Élodie Forêt, une équipe de l'émission Quotidien. Elle était huée alors qu'elle interrogeait des participants. Les journalistes veulent ma mort sociale, dit Éric Zemmour dans son discours. Des faits dénoncés par la gauche et par la majorité. Total soutien aux militants et aux journalistes agressés, écrit Anne Hidalgo. Il prétend rétablir l'ordre, il sème le chaos selon le député La République En Marche, Hugues Rançon. Chez les LR, déjeuner en privé entre les deux finalistes du congrès, Valérie Pécresse à Nice, chez Éric Ciotti ce midi avant un déplacement commun à Saint-Martin-Vésubie en hommage aux victimes de la tempête Alex. Quant à Emmanuel Macron, le seul qui manque désormais dans le paysage politique des candidats à la présidentielle, il parlera jeudi pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et à Noël, combien coûtera la volaille du réveillon? Les prix augmentent, en cause le maïs dont la production baisse au Brésil et la demande s'envole aux États-Unis et en Chine. Résultat, avec ces prix du maïs, du blé, du soja qui augmentent depuis un an, le dialogue se tend entre éleveurs et grandes distributions. Reportage près du Mans de Kathleen Comte.
Bienvenue sur notre ferme, à Pruil-Chétif.
Isabelle Leballeur est éleveuse de volailles depuis plus de 30 ans. Sur son exploitation sartoise, 50 000 poussins qu'il faut nourrir malgré les prix qui flambent.
On assiste à des prix des matières premières, donc de toutes les céréales, hein, y compris les protéines qui flambent, qui sont arrivées à des prix de jamais vus.
Plus 30 % en un an, comptez 280 euros la tonne de blé contre 180 l'année dernière.
Une tonne de maïs, pareil. Une tonne de colza, pareil. Une tonne de soja, pareil. Voire plus.
Comme 95% des éleveurs de volailles, Isabelle est contractualisée. Elle a donc la garantie que sa production sera bien achetée au prix du marché pour être vendue aux grandes surfaces. Problème, ce n'est pas le cas actuellement.
Nos metteurs en marché nous disent « stop, on arrête ». Désormais, on change le contrat, tout simplement parce que les acheteurs, la distribution, ne veulent pas aujourd'hui accepter les hausses. Et là, notamment les dernières, ils ne veulent pas les prendre.
Les éleveurs estiment que pour s'en sortir, les consommateurs doivent payer environ 50 centimes d'euros de plus par kilo de volaille.
Toute la filière ne peut pas être piégée. Donc il faut qu'à un moment, on puisse faire en sorte d'augmenter le prix final pour pouvoir se rémunérer correctement et pas faire une perte, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est des pertes.
D'après les prévisions, les prix des matières premières ne devraient pas baisser dans les prochains mois.
Vigilance orange aux avalanches dans les Pyrénées. Vigilance jusqu'à 10 heures. Risque fort de niveau 4 sur les massifs du Pays Basque. À Toulouse, depuis hier soir, un gymnase accueille une quarantaine de sans-abri, dont une majorité d'enfants à la rue depuis plusieurs semaines. Occupation soutenue par plusieurs associations, dont la Fédération des conseils de parents d'élèves.
Il est 7h09. Le pape Anaïs quitte la Grèce en fin de matinée.
Visite de 3 jours, en particulier sur l'île de Lesbos, et cet appel de François en faveur d'une meilleure intégration l'immigration des migrants en Europe. Aung San Suu Kyi, elle, condamnée à 4 ans de prison, décision à l'instant d'un tribunal birman. La prix Nobel condamnée pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. À Madagascar, qui en voulait au président? Le procès de deux anciens officiers de l'armée française s'ouvre aujourd'hui. Le 20 juillet dernier, ils avaient été interpellés lors d'une vaste opération de police. Arrestation la veille de ce qui devait être la mise en œuvre d'un plan visant à tuer le président malgache. Le récit de Claude Guibal.
Nom de code de l'opération Apollo 21. Son objectif, l'assassinat du président malgache Andry Rajoelina, installé d'abord au pouvoir par la junte militaire qui, en 2009, avait contraint l'ancien président Marc Ravalomanana au départ. Un putsch dont Andry Rajoelina a tenté d'effacer le souvenir en se faisant élire pour de bon en 2019. Depuis, le pays déjà classé parmi les plus pauvres au monde s'est enfoncé dans une crise toujours plus profonde. Une famine terrible touche désormais une partie de l'île. Une situation délétère qui a rendu le président très critiqué pour sa gestion de la pandémie, plus rigide encore, multipliant les attaques contre la presse, l'opposition et fermant de plus en plus le pays au reste du monde. C'est dans ce contexte que l'opération Apollo 21 serait née. Selon la presse malgache, le cerveau serait un des deux Français poursuivis, un binational, ancien commando parachutiste et proche d'Andry Rajoelina qui nourrissait des ambitions politiques. L'autre, un ancien membre des forces spéciales, était arrivé l'an dernier à Madagascar pour y monter une société de conseil en investissement. Selon l'enquête, ils auraient fait appel à des mercenaires pour mettre leur projet à exécution.
Claude Guibal. Allez, le football, la fin de la 17e journée de Ligue 1 hier soir, de partout entre Bordeaux et Lyon. Et du côté de Saint-Etienne, l'entraîneur Claude Puel mise à l'écart. La défaite à domicile face à Rennes 5-0 aura été celle de trop. Sous le sapin, le calendrier de l'Avent du service culture vous propose aujourd'hui un livre classique des classiques de la littérature mondiale après 700 ans. La Divine Comédie de Dante à la Pléiade, édition bilingue Ilana Mourioussef, avec la belle traduction de Jacqueline Risset.
Il existe déjà une édition de la Divine Comédie dans la Pléiade, mais celle-ci propose une traduction plus moderne, celle de Jacqueline Risset, et surtout, elle donne le texte italien en regard. Même quand on ne comprend pas l'italien, on peut se faire une idée de la musicalité du poème. Carlo Ossola, professeur honoraire au Collège de France, il a dirigé cette édition.
Même si les lecteurs commencent tout naturellement par le texte français, de temps en temps, on peut jeter l'œil sur l'autre page et commencer notre voyage. Quand on le lit, il faut toujours penser que Ezra Pound avait noté que la Divine Comédie est pour everyman, pour chacun et pour tous.
Voilà pour ceux qui seraient intimidés par ce monument de la littérature mondiale. Dante est partout, dit Carlo Ossola. Il est cité par Primo Levi dans Si c'est un homme. Il a accompagné Mandelstam dans son dernier voyage.
Osip Mandelstam, mis à mort par Staline, quand il est parti pour Vladivostok, et il savait déjà qu'il serait envoyé à la Colima, il avait deux livres sur soi, Dante et Pushkin. Donc Dante est vraiment le poème de la dignité humaine, le poème des exilés et le poème de la liberté.
Carlo Ossola rappelle qu'autrefois, des Italiens, même illettrés, en connaissaient de longs passages par cœur.
Et oui, nel mezzo del cammin di nostra vita, hein, au milieu du chemin de notre vie.
Bravo, bravo. Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le zoom en Guyane avec des satellites espions, nouvelle arme du renseignement français.